Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est la figure un peu effrayante d'une reine meurtrière que Franck Ferrand nous propose de découvrir cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Elle est une de nos plus anciennes reines et le fait est qu'elle aura tué non seulement tous les enfants de son mari mais le roi et finalement lui-même. Si encore, elle s'en était tenue à cela. La reine Frédégonde, vous l'avez compris, n'a pas été tendre au cours de sa longue existence. Il faut dire à sa décharge qu'à l'époque, dans les temps mérovingiens, être tendre, ça voulait souvent dire mourir jeune.
Et cette reine Frédégonde avait une ennemie jurée, sa propre belle-sœur.
Sa belle-sœur, en effet, la reine Brunehaut ou Brunehilde. Vous allez voir que la lutte à mort entre ces deux femmes n'a pas été sans conséquence sur ce qui allait devenir la France.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La période dans laquelle je vous emmène donc aujourd'hui est tout à fait exotique pour nous. C'est un de ces angles morts de l'histoire qui surprennent et font sourire, car tout y est différent de ce à quoi nous sommes habitués. À commencer par les noms propres, Clodomir, Théodebert, Odovert, Galesvint. Si vous attendez un enfant, c'est le moment de prendre des notes. Vous allez voir que les prénoms que nous allons avoir à rencontrer aujourd'hui sont assez folkloriques. La période, vous savez, est un petit peu... comme ces terres inconnues dans lesquelles on a envie de se jeter à corps perdu car tout y semble à défricher. Période bien mal connue du reste et qui a bien mauvaise réputation. Période que l'on croit sombre parce qu'elle est coincée entre la fin de la brillante culture gallo-romaine et le début de la brillante culture carolingienne. Entre les deux, vous l'avez rapidement appris à l'école, il y a donc les Mérovingiens, avec leur cortège barbare de guerriers chevelus à moitié christianisés, d'évêques intrigants bénissant d'étranges sarcophages, de rois fainéants qui se laissent traîner en char à bœufs, voilà pour l'imagerie d'Épinal. Le plus célèbre roi franc de cette dynastie mérovingienne, c'est évidemment l'un de ses fondateurs, Clovis, dont le baptême est symboliquement considéré comme l'acte de naissance de la France. C'était lors de la veillée de Noël 496, à moins que ce ne soit lors de celle de 498. À l'époque, on note pas tout avec précision. Ce qui est certain, c'est que Clovis meurt en 511, que sa veuve, la reine Clotilde, lui survivra jusqu'en 548 et que notre histoire d'aujourd'hui va commencer une vingtaine d'années plus tard, un peu après 560. Alors avant de me suivre dans ces temps mérovingiens, il y a deux choses que vous devez savoir. La première, c'est qu'à cette époque, les barbares qui ont pris possession de la Gaule romaine en pleine décadence, ces barbares viennent tous plus ou moins des régions germaniques. Ce sont notamment des Francs, surtout au nord de la Loire, des Visigoths dans l'ouest et le sud, qui ont été donc vaincus par Clovis en 507 à Vouillé, et puis des Burgondes dans le sud-est. Ils ont été christianisés, ils restent encore très imprégnés néanmoins de leur culture d'origine et notamment, ils reculent rarement devant un crime de sang. Vous savez, c'est la merveilleuse formule de l'historien Fustel de Coulanges au XIXe siècle qui disait que la royauté mérovingienne était, je cite, « un despotisme tempéré par l'assassinat ». La deuxième chose à savoir, pour bien comprendre notre histoire d'aujourd'hui, et on peut dire que ça découle de la même cause finalement, c'est que le mode de succession chez les rois francs n'est pas dynastique mais patrimonial. Autrement dit, quand un souverain meurt, son domaine n'est pas transmis d'un seul tenant à un héritier du trône, comme on le voit dans la plupart des monarchies. Là, il est partagé entre les différents fils. Alors c'est vrai, lorsqu'un des fils meurt, ses frères récupèrent leur part du royaume, et on peut même dire qu'en dépit de tous ces partages, on considère toujours l'ensemble du royaume des Francs comme une unité. Mais ça n'empêche pas qu'à la longue, on aboutisse à un morcellement territorial qui va faire le malheur des Mérovingiens. Alors maintenant que vous savez tout ça, vous êtes armé, je crois, pour pénétrer dans cette famille royale, dangereuse et même un peu sanguinolente. Je ne sais pas si ça vous dit, Julia, mais je crois qu'il faut qu'on y aille, néanmoins.
Il faut y aller, à un moment donné, il faut y aller.
Alors, bon, je vous ai dit que Clovis était mort en 511. Son royaume, le royaume franc, a été partagé entre ses quatre fils. Il y aura un roi d'Orléans, un roi de Paris, un roi de Reims, un roi de Soissons, qui chacun dispose d'un territoire, évidemment, assez étendu. Le dernier, le roi de Soissons, Clotaire Ier, vit très vieux pour l'époque, ce qui fait qu'il récupère l'essentiel de l'ancien territoire de son père et qu'il ne meurt à son tour qu'en 561. Du coup, en 561, il y a un nouveau partage, notamment entre ses quatre fils, mais notamment entre deux d'entre eux, un peu les frères ennemis, pour tout vous dire. Sigebert, qui va hériter un domaine vers l'est, et Chilpéric, auquel échoit un domaine plus à l'ouest, avec pour capitale Soissons. Soissons, eh bien, si vous voulez, on va s'y rendre en cette année 565. Pour ceux qui habiteraient Soissons en ce moment, il faut vous faire un effort d'imagination. La Soissons du VIe siècle était très différente de celle que nous connaissons.
L'ouverture de Norma sur Europe 1 de Vincenzo Bellini, Franck.
Alors donc, nous sommes à Soissons en cette année 565. Chilpéric est parti se battre en Bretagne à ce moment-là et son épouse, la douce Audovaire, attend un quatrième enfant. C'est une petite fille qui naît, elle s'appelle Basine. Question de la pauvre Audovaire, qui est tout de même un brin naïve. Cette petite Basine, est-ce qu'il faut la baptiser tout de suite ou bien est-ce qu'il faudrait attendre le retour du roi Chilpéric? Alors la légende, je dis bien la légende, veut que cette reine de Soissons, bien embarrassée par cette épineuse question, ait pris conseil auprès d'une de ses servantes, une petite paysanne d'origine gauloise, tellement intelligente qu'elle a fini par devenir plus ou moins la confidente de la reine. « N'attendez pas, madame, baptisez-la, conseille la servante. » Mais alors qui sera la marraine? Et pourquoi pas vous-même? Tu as raison, conclut Audovaire. Et elle se dit que décidément cette servante est de bon conseil. Entre nous, elle porte un nom, la servante. Elle s'appelle Frédégonde. Elle porte aussi quelques appâts qui font d'elle une des plus belles femmes, peut-être la plus belle de la cour. Attention, je ne suis pas en train de vous parler de la cour de François Ier non plus. La concurrence ne devait pas être terrible. Le fait est néanmoins qu'elle est très belle, si belle Frédégonde en vérité, que depuis longtemps Chilpéric en a fait sa maîtresse, car en bon chef franc, ce roi a une épouse et puis tout un harem de concubines. Ça nous ramène un peu à l'émission d'hier, tout ça. D'ailleurs, quand Chilpéric rentre de la guerre, il se retrouve plus volontiers dans le giron de la petite Frédégonde qu'entre les bras de son épouse. Et c'est alors que la servante, et néanmoins concubine, va lâcher tranquillement son fiel sur l'oreiller, à supposer que les Mérovingiens aient fait déjà usage d'oreiller, ce qui n'est pas impossible, mais reste à démontrer. « Quel malheur, dit-elle, votre épouse, en devenant la marraine de votre fille, Basine donc, est devenue votre commère. L'Église vous interdit désormais de partager sa couche. » Car à l'époque, et quand je vous dis que ce sont des temps exotiques, le fait d'être parrain ou marraine d'un enfant créait automatiquement avec les parents de cet enfant des liens fraternels. Donc pour le roi continuer de passer la nuit avec sa femme qui était en même temps la marraine de leur fille, c'était commettre un inceste. Je vous le redis, ce subterfuge inventé par Frédégonde relève probablement de la légende, mais au-delà du débat sur sa plausibilité, il laisse entendre que la donzelle avait plus d'un tour dans son sac, et ça, la suite va nous le prouver, et nous le prouver amplement. Il faut dire aussi que Chilpéric ne semble pas avoir vraiment brillé par sa finesse, pour tout vous dire. Rien à voir avec son frère, le roi de Reims. Ah, ce frère, ce Sigebert, le roi de ce qu'on appellera bientôt l'Austrasie, lui déjà a choisi pour épouse une princesse de haut rang, la fille du roi Visigoth, qui à l'époque règne sur presque toute l'Espagne. Autant dire le plus riche parti d'Occident, Brunhilde. Voici comment une ancienne chronique nous la décrit. Je cite, « C'était une jeune fille d'une taille élégante, de mœurs honnêtes, distinguées, sage dans sa conduite et agréable dans sa conversation. » Sigebert est amoureux de sa femme. Il l'a été au premier regard. Il l'a épousée en grande pompe à Metz. Bien sûr, Chilpéric en a beaucoup entendu parler et d'emblée, il s'est montré jaloux de son frère. Il lui faut, à son tour, épouser une princesse espagnole. Et puisque l'autre, sa première épouse, là, a été mise depuis longtemps maintenant au couvent, elle a commis l'irréparable. Tant pis pour elle. Alors se dit Chilpéric, pourquoi pas la sœur aînée de Brunehilde, qui s'appelle Galsvinte. Pour convaincre le roi Wisigoth de lui confier sa fille aînée, Chilpéric va devoir faire pas mal de concessions. Et la vérité, c'est que ce mariage ne va être rendu possible que par la mort d'un autre frère de Chilpéric et Sigebert, le roi de Paris. À la mort du frère, je vous l'ai dit, ce sont les autres frères qui se partagent son territoire. Et du coup, Chilpéric hérite comme ça de la plus grande partie de l'ouest de la Gaule, jusqu'au Béarn, à la Bigorre et au Comminges. Autrement dit, il est devenu le voisin immédiat des Wisigoths. Puisque la fille aînée du roi d'Espagne, si j'ose dire, était encore à marier, eh bien Chilpéric aurait dû se demander pourquoi son frère avait épousé la sœur cadette. Mais je vous dis, il n'est pas très malin, le roi de la nouvelle Neustrie. Il aura la réponse avant de s'être posé la question, c'est qu'en fait, la pauvre Galsvinte est aussi ingrate physiquement que sa sœur est rayonnante. De sorte que notre Frédégonde, un temps délaissée, une fois passés les premiers émois et d'inévitables frayeurs, bien entendu, ne va pas tarder à retrouver le chemin de la couche de Chilpéric. Le traitement que peu à peu, cette simple concubine va parvenir à infliger à la reine en titre, un traitement d'une dureté incroyable nous montre chez Frédégonde un tempérament tout de même pas très humain, disons-le, en tout cas d'une grande dureté. Il y a vite de la répudiation dans l'air. Galsvinte, la pauvre, tellement malheureuse, tellement maltraitée, est prête à abandonner sa fabuleuse dot à Chilpéric. Seulement celui-ci sait bien que le beau-père ne va pas l'entendre de cette oreille. Alors plutôt que de répudier Galsvinte, il va procéder autrement. Sans doute inspiré par Frédégonde, il charge un obscur esclave d'aller tuer chez elle, dans sa chambre, la pauvre reine, après quoi, probablement, il supprimera lui-même le cerf. On ne sait pas tout ça, mais on le suppose. Ça paraît en tout cas très probable. Et voilà comment, nous raconte Anne Bernet dans la biographie qu'elle publie chez Pygmalion, voilà comment, un matin de l'automne 569, sa nourrice, en venant la réveiller, découvrit la reine Galsvinte assassinée dans le lit où elle couchait seule. La veille au soir, le roi était allé retrouver sa maîtresse, donc Frédégonde. Chilpéric avait eu l'intention de faire passer cette mort pour naturelle, mais le meurtrier avait gâché la besogne en achevant sa victime au poignard. Le crime était patent, ses mobiles aussi, son commanditaire pareillement. Le roi avait beau sangloter à grand bruit sur le cadavre massacré de sa femme, personne ne fut dupe, lui seul avait organisé cet assassinat. Sauf qu'à la cour d'Austrasie, vous vous imaginez bien qu'en apprenant la nouvelle, la sœur de la victime, la reine Brunehilde, sait d'ores et déjà à qui imputer l'initiative de ce crime. Elle va demander réparation, on va s'acheminer vers un premier accord entre les deux frères, entre Chilpéric et Sigebert, qui finalement aboutira néanmoins à une lutte fratricide. On peut dire que désormais est née cette haine mutuelle extrême, inextinguible entre Brunehilde d'Austrasie et Frédégonde de Neustrie, une haine qui ne devait plus s'éteindre et qui allait créer, qui allait entraîner de véritables ravages.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités aujourd'hui sur Europe 1, Franck, Anne Bernet qui est historienne, auteur, vous l'avez dit, de Frédégonde, épouse de Chilpéric chez Pygmalion. Avec nous également Claude Valex qui est préfet honoraire, auteur quant à lui de Frédégonde, la reine barbare chez l'Harmattan.
Nos deux spécialistes d'aujourd'hui vont avoir fort à faire parce que j'ai essayé moi de débroussailler un peu le terrain, mais c'est vrai que nous sommes dans une période particulièrement méconnue. Alors si vous le voulez bien, vers la fin de cette émission, on reviendra sur les temps mérovingiens, sur la culture de cette époque, sur les mœurs, sur la façon de vivre tout simplement. J'aimerais que nous nous concentrions dans un premier temps sur notre fameuse Frédégonde que nous avons laissée pour l'instant toujours maîtresse ou concubine du roi Chilpéric, mais qui va finir par devenir la reine Anne Bernet. Ce qui est étonnant quand on lit votre biographie de Frédégonde, c'est que vous avez presque tendance à la défendre. Elle est une des figures les plus noires de notre histoire et vous essayez de vous en faire l'avocate.
J'aime bien les personnages controversés. En plus, c'est peut-être une espèce de solidarité féminine, mais nous sommes dans une époque particulièrement abominable, où les femmes ont les plus grandes difficultés à s'imposer, et Frédégonde va user, sans le moindre scrupule, je l'admets, des armes à sa portée, et décider de s'en sortir pour elle, de s'en sortir pour Chilpéric, dont elle est finalement très amoureuse, et de s'en sortir pour ses enfants, et... Elle va commettre des crimes, mais elle va les commettre pour protéger ceux qu'elle aime. Et je pense que toutes les femmes lui trouveront là une excuse.
J'espère que nos auditrices sont d'accord avec vous. Alors, on va quand même voir que dans le détail, elle n'est pas tendre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans un premier temps, après l'assassinat donc, de cette pauvre Galsvinte, évidemment, la sœur de la victime, la reine d'Austrasie, on ne parle pas tout à fait encore d'Austrasie, mais pour simplifier, on va dire nous la reine d'Austrasie, Brunehilde demande à son mari Sigebert d'aller vraiment se battre. Et finalement, c'est un des frères, le roi de Burgondie, qui s'interpose et qui essaie dans un premier temps de les mettre d'accord. On réunit donc une assemblée et on va donner tout le douaire, tout l'héritage de cette pauvre Galsvinte, on va en faire don à sa sœur et donc à l'Austrasie.
On va le donner théoriquement, c'est un douaire énorme, gigantesque. C'est pratiquement tout le sud-ouest qui va être offert au royaume d'Austrasie et à Brunehilde en compensation de la mort de sa sœur. Mais entre un accord juridique consistant à donner les territoires en question et le fait d'aller les chercher, il y a de la marge. En réalité, l'Austrasie ne mettra pratiquement jamais la main sur les villes et les territoires en question. Il faudra qu'elle aille les conquérir. Nous allons entrer dans une période de guerre interminable, d'une grande violence pendant laquelle ils vont se trucider.
Il faut dire que le roi... Vous dites Chilpéric.
Chilpéric, ça n'a pas d'importance.
Alors, de toute façon, pour l'époque, tout ça est un peu, évidemment... ce sont des, on va dire qu'il y a des conventions. La convention veut qu'on dise Chilpéric.
Ça dépend des
alors,
auteurs.
Alors, en tout cas... ce brave homme réunit toute l'armée dont il dispose, il la confie à l'un des fils qu'il a eu avec sa première épouse, dont je parlais au tout début de l'émission, et puis dans un premier temps il se montre plutôt en position de force, et puis très vite il est submergé par tous ces Germains qui arrivent d'Austrasie, qui arrivent au secours des troupes de Sigebert, et qui vont peu à peu gagner sur son propre territoire et l'assiéger dans Tournai. Et c'est là qu'intervient cet épisode qu'on a tous plus ou moins appris. Alors ça dépendait des marottes des enseignants, ça généralement. Mais cet épisode de Tournai où l'on voit Frédégonde, qui est décidément très retorse, on va la voir convaincre deux de ses gardiens de se retourner, d'aller en mission, d'aller comme émissaire auprès de Sigebert, donc de son ennemi, et finalement de l'assassiner, Claude Valleix.
Voilà, c'est un épisode tout à fait extraordinaire de la vie de Frédégonde, qui est plus une femme de pouvoir qu'une femme politique. Ce qui l'intéresse, elle, c'est de s'asseoir sur le trône de France et d'y laisser un de ses fils. On verra que ça sera assez compliqué. Mais à ce moment-là de son histoire, elle joue gros. Tout est perdu pour Chilpéric. Absolument tout est perdu.
Normalement, c'est la fin de l'histoire de Frédégonde.
C'est la fin de l'histoire de Frédégonde, pas celle de Chilpéric, parce que les Francs savaient se ménager, finalement, au bout du compte. Mais son armée a fait défection, il est enfermé dans Tournai, il n'a pas les moyens de se défendre, les remparts n'ont pas été relevés. Et Frédégonde, seule, tient le choc, et elle réussit, alors là, c'est tout à fait extraordinaire, comment réussit-elle cet exploit, à convaincre deux jeunes seigneurs, qu'on appelait les Leudes, d'aller à Ivry, qui est pas en Artois, qui est à quelques lieues de Tournai, et au moment où Sigebert vient pour l'assaut final, ces deux garçons assassinent le roi. Ils le font en sachant que leur vie qu'ils vont perdre leur vie. Et à l'époque, vous l'avez souligné tout à l'heure, la violence est extraordinaire. Mourir simplement était une aubaine, hein, quand on n'était pas découpé en morceaux. Donc, comment a-t-elle pu réussir cet exploit ? Toujours est-il que les Francs, voyant perdre leur souverain, qu'ils étaient prêts à acclamer, se retourne complètement, la situation est complètement renversée, Chilpéric sort vainqueur, il vient enterrer son frère pour qu'il marche.
Et Brunehilde, à ce moment-là, se trouve à Paris, elle apprend la chose et elle se dit qu'alors tout est en train de se retourner, que c'est elle qui va bientôt être prisonnière de ses ennemis, elle veut absolument sauver son fils, et alors je lis un historien du 19e siècle, par une fenêtre, nous raconte-t-il, elle parvient à faire passer l'enfant installé dans un panier au bout d'une corde à un ami dévoué, Gondobal, Gérald. Allez, encore un nom. Vous devriez prendre des...
Mais là, je prends des
marrant, tous ces noms.
Oui, c'est vrai.
Parce que je pense qu'on devrait tous se rebaptiser comme ça un de ces jours.
Ou pas.
Gondobald ou pas, qui attend au pied du mur. Gondobald emmènera aussitôt Childebert à l'abri de sa capitale, donc à Metz. C'est un véritable roman. On s'étonne que des scénaristes de télévision ou de cinéma ne se soient pas encore emparés de la vie de Frédégonde, Anne Bernet.
C'est un roman, puisqu'il s'agit d'une chronique du siècle suivant qui est totalement romancée. En réalité,
mais vous nous cassez nos rêves.
L'excellent Gondobald va se présenter à Paris. Et le jeune roi a 5 ans. Ça ne l'intéresse pas du tout, lui, de récupérer cet enfant, mais il en a besoin pour assurer la régence. Il ne va rien demander à la malheureuse Brunehilde. Il va purement et simplement kidnapper son fils et laisser la mère et les deux sœurs aînées à Paris, parce qu'il n'a strictement rien à faire d'elles. Comme ça qu'elles vont tomber au pouvoir de Chilpéric, qui va s'occuper avec affection de sa belle-sœur et de ses nièces. Mais malheureusement, son neveu lui a filé sous le nez, et avec lui la couronne d'Austrasie.
Ah oui, ça tombait mal. Dommage.
Ça tombait très mal.
Est-ce que tous ces... On va venir tout à l'heure sur la dynastie elle-même, mais est-ce que tous ces rois n'essayaient pas tout simplement de courir après une sorte de rêve d'unité qui était constamment contrebattus par leur système de succession, finalement.
Mais bien entendu, c'est cette catastrophe du système dynastique mérovingien qui traite l'héritage royal comme un héritage particulier. À chaque décès du souverain, vous coupez l'héritage en autant de parts qu'il y a d'héritiers. Bien entendu, chacun hérite d'une part ridicule et n'a qu'une ambition, c'est recomposer le royaume paternel, quitte d'ailleurs à massacrer les co-héritiers. Il faut se souvenir que le père de Chilpéric, Clotaire, a quand même, pour récupérer le royaume d'Orléans, tué de sa propre main les deux fils de son frère, des enfants en bas âge. Ce ne sont pas des tendres. C'est une des excuses de la pauvre Frédégonde, c'est que si elle était tombée au pouvoir de son beau-frère qu'elle a fait assassiner, elle y serait passée et ses trois enfants aussi.
Alors, elle a fait assassiner son beau-frère, dont acte. Vous vous insurgez contre cette légende qui voudrait qu'elle ait aussi fait tuer son mari.
Rien ne laisse supposer qu'elle ait fait tuer son mari, d'abord parce que je pense qu'elle l'aimait.
Rappelez-nous en deux mots peut-être l'épisode de Chelles, quand même, comment tout ça s'est passé.
Eh bien, les choses se sont assez mal passées pour la malheureuse Frédégonde, puisqu'elle a eu 5 fils qui sont morts les uns après les autres. Et puis, elle finit par se persuader que ce sont les Austrasiens qui empoisonnent ses enfants ou ses beaux-fils. Enfin, elle est persuadée qu'une main malveillante supprime ses enfants les uns après les autres. Et en 584, elle a tout de même au moins 45 ans. On estime que c'est une femme finie, une vieille femme, qu'elle n'aura plus d'enfants. Et à ce moment-là, on se dit, eh bien, c'est le moment de se débarrasser de Chilpéric. C'est ce que se dit sa belle-sœur Brunehilde. D'autant plus qu'il n'y a plus d'héritiers du trône, ils sont tous morts. Ce qu'elle ignore, c'est que Frédégonde est enceinte. Mais qu'elle a eu l'idée, compréhensible et saugrenue à la fois, de cacher cette grossesse pour protéger l'enfant. Elle va accoucher en juin 584 d'un garçon totalement inespéré, qu'elle va appeler Clotaire, en souvenir de son grand-père, le réunificateur et l'assassin. Mais comme elle ne va pas annoncer cette naissance, tout le monde va supposer que le trône de Neustrie n'a toujours pas d'héritier, sinon une fille. Et à ce moment-là, effectivement, quelques mois plus tard, on va assassiner le roi de Neustrie au moment où sa fille aînée Rigonde vient de partir se marier en Espagne. Quel serait l'intérêt de Frédégonde de faire assassiner son mari alors qu'elle n'a pas fait reconnaître son fils de 3 mois, qu'elle n'a aucune certitude que cet enfant survive étant donné la terrible mortalité infantile de l'époque? Et dernière erreur, sa fille vient de partir pour l'Espagne, sa fille qu'elle pourrait présenter comme l'héritière du trône.
Ah oui. Donc c'est vrai que tout ça la disculpe un peu, mais vous admettrez qu'on ne prête qu'aux riches et que cette femme a commis tellement de forfaits finalement dans sa vie qu'on a tendance à lui en attribuer quelques-uns. Claude Vallex.
Oui, moi je suis convaincu qu'elle a tué son mari.
Elle avait mené l'enquête de manière policière.
J'ai réfléchi, c'est-à-dire j'ai raisonné à contrario.
Il faut dire et rappeler que vous êtes, vous, un homme de pouvoir, pour le coup.
Je suis un fonctionnaire, j'ai approché les systèmes de pouvoir, donc j'ai regardé l'histoire sous cet angle-là.
Vous êtes préfet honoraire,
je suis préfet honoraire.
Vous connaissez les arcanes du pouvoir,
voilà. Il faut se souvenir que Frédégonde a perdu tous ses fils. L'époque est dure, la peste frappe. Et elle a absolument besoin d'enfants. Or, quand on arrive en 1980, le roi est âgé, il a 57 ans, sa vigueur faiblit. Frédégonde est une séductrice née. Tout ça fait partie des armes qu'elle utilise pour atteindre les sommets du pouvoir et pour s'y maintenir. Elle a donné beaucoup de joie à certains évêques chaque fois que c'était nécessaire. Donc, elle vient de perdre son dernier fils qui s'appelait Thierry. Si elle n'est pas enceinte, elle est sûre que tout va mal se passer pour elle. Donc elle fait ce qu'il faut pour qu'elle tombe enceinte. Alors, je pense que c'est pas le roi qui a réussi dans ses entreprises, mais le roi finit par ouvrir les yeux. On l'avait déjà alerté à de multiples reprises, il n'y croyait pas. Moi, je pense que alors qu'on est à Chelles, dans les villas qu'affectionnaient les Mérovingiens, où ils étaient chez eux, tranquilles, dans leur intimité.
C'est des villas au sens romain du terme,
ce sont de très grands domaines. Il est tué alors qu'il est à la chasse, on n'a aucune raison de tuer. Si on en avait une, il y aurait eu des conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Et Frédégonde l'a fait assassiner, tout simplement, parce que son Marie a découvert son adultère et là, encore une fois, elle fait preuve d'initiative et après ça va être chez elle très compliqué parce qu'il faudra qu'elle fasse admettre la légitimité de l'enfant qui viendra au jour, qui s'appelle Clotaire. Donc les soupçons sont extrêmement forts. Elle parvient à cet exploit que les grands reconnaissent la légitimité de l'enfant et ensuite elle se présentera devant les batailles en reine pour vaincre le fils de Brunehaut, Childebert, qui voudra l'attaquer.
Il faut toujours, lorsqu'on parle de ces époques très reculées, insister sur la relativité des sources. Bien entendu, nous reviendrons d'ailleurs sur les types de sources et sur les éléments dont on dispose pour parler des destins de ces personnages dans un instant, après avoir fait un dernier détour du côté de cette lutte entre Brunehaut, l'Austrasienne, et la régente de Neustrie maintenant, Frédégonde.
Sur Europe 1 du prélude de Tannhauser de Wagner, Franck.
Je parlais de la relativité des sources. Nous avons, nous, de bonnes sources contemporaines, puisque nous avons invité Anne Bernay, auteure de Frédégonde chez Pygmalion, et Claude Valeix, auteur de Frédégonde, la reine barbare, chez L'Harmattan. Vous avez sous-titré ça d'ailleurs roman historique, Claude Valeix, mais vous êtes très près de l'histoire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez inventé quelques épisodes, vous avez romancé certains blancs de l'histoire.
J'ai gardé le cadre.
Voilà. Alors je parlais de sources, il faut bien sûr tenir compte de tous ces historiens qui au XIXe siècle ont fixé à jamais la légende et bien sûr il faut parler d'Augustin Thierry qui est peut-être celui par lequel on a le mieux connu les Mérovingiens. Alors lui est convaincu, il le dit clairement, qu'elle a bien tué son mari, mais enfin bon, il avait encore une fois les sources, nous y reviendrons ça dans un instant. Il nous dit que devenue régente du royaume de Neustrie, Frédégonde va n'avoir plus qu'une idée en tête, c'est chercher à se défaire de la terrible Brunhilde, bien entendu, de cette belle-sœur, si l'on peut dire, par alliance, qui est devenue son ennemi terrible. Alors elle envoie auprès de Brunhilde un jeune clerc, qui lui était tout dévoué, décidément c'était sa façon générale de procéder. Cet homme se présente à la cour de Brunhilde, donc en Austrasie, et il parvient peu à peu, parce qu'il est assez habile, à entrer au service de la reine. Mais, nous dit Augustin Thierry, après quelques jours, l'on se défia de lui. On le mit à la question, et quand il eut tout avoué, on le renvoya sans lui faire d'autre mal, entre parenthèses, quand on sait ce que devait être la question du temps des Mérovingiens, je trouve ça un peu cavalier de la part de l'historien, mais enfin bon, on le renvoya sans lui faire d'autre mal en lui disant « Retourne à ta patronne ». Frédégonde, ajoute Augustin Thierry, outrée jusqu'à la fureur de cette clémence qui lui semblait une insulte insulte et un défi, s'en vengea sur son maladroit émissaire en lui faisant couper les pieds et les mains. La haine entre ces deux femmes, entre Frédégonde et Brunhilde, va se poursuivre et elle aboutira d'ailleurs, après même la mort de Frédégonde, par la vengeance via son fils. Il faut savoir que le 24 février 486, un certain, je crois qu'il faut, entrer là dans l'histoire de Prétexta. Il faut que vous nous disiez, Anne Bernet, ce que vient faire cet évêque dans l'histoire.
Prétexta est l'évêque de Rouen. C'est un personnage extrêmement curieux parce qu'à certains moments, il a été très fidèle à son roi. Mais il se trouve qu'il était le parrain des fils de la première reine, Audovaire, et qu'il avait beaucoup misé sur l'accession au trône de ses braves garçons. Comme Frédégonde s'est débarrassé des uns après les autres, eh bien Prétexta a vu lui filer sous le nez la grande place qu'il espérait. Il en a beaucoup voulu à Frédégonde, ce qui est explicable. Ce qui ne l'a pas empêché, c'est paradoxal, mais de bénir le mariage de Chilpéric et de Frédégonde, alors même qu'Audovaire était toujours vivante. Ce qui est pour le moins curieux. En attendant, il la déteste et il est bien décidé à lui jouer tous les tours possibles. C'est lui qui fait en partie courir les bruits sur la bâtardise du petit Clotaire. C'est lui qui conspire dans l'ombre avec l'Austrasie. Il est très lié avec Brunehilde. Et finalement, après la mort de son mari, le roi Gontran, le troisième frère, le beau-frère donc de Brunehilde et de Frédégonde, la prend sous sa protection, ainsi que l'enfant qu'il reconnaît pour des raisons politiques, mais il la confie à l'évêque Prétexta de Rouen, lui disant « gardez l'œil sur elle ». Et très vite, bien Frédégonde se dit « il va me tuer, il va tuer mon fils ». Et c'est d'ailleurs très probable. Et bon, selon toute vraisemblance, elle va prendre les devants. Ce n'est pas une femme d'une grande piété, ça ne la tracasse pas de trucider un évêque qu'elle ne trouve pas respectable et qui au demeurant ne l'est pas tellement. Et pendant la grand-messe, un dimanche, eh bien Prétexta va être lardé de coups de couteau, d'ailleurs par un tueur amateur qui ne va pas le tuer. On va le ramener chez lui, il va agoniser plusieurs jours en maudissant la malheureuse Frédégonde. Et ce qui est plus curieux, qui oblige tout de même à se poser des questions, c'est qu'à ce moment-là arrivent des émissaires de Brunehilde, dont on se demande vraiment ce qu'ils faisaient dans le coin à ce moment précis. De là à penser que Frédégonde n'était peut-être pas la seule avoir des raisons d'assassiner Prétexta, il n'y a qu'un pas.
On voit que les turpitudes sont immenses dans ces fratries mérovingiennes. Finalement, nous dit Frédéric par Internet, il est plus intéressant de connaître la vie quotidienne de cette époque que toutes les turpitudes de ces consanguins francs. Les fouilles sur les tombes mérovingiennes nous en apprennent plus sur ces époques que les sources historiques dont vous parliez. Eh bien justement, nous allons parler de société, de culture et de mœurs dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le bon roi Dagobert aimait mieux l'été que l'hiver. Le grand Saint-Éloi préférait les bois. Le roi Dagobert préférait la mer. Qu'on voit danser le long des golfes clairs sur un bateau de pêcheur. Le roi n'avait pas mal au cœur. Le bon roi Dagobert aimait bien son père et sa mère. Il aimait autant les petits-enfants. Il aimait le bon vin et le civet de lapin.
Charles Trenet sur Europe 1 avec le roi Dagobert, Dada, Gogo, Bébert.
Oui, ces noms sont tellement exotiques pour nous et les mœurs et la société auxquelles ils font référence nous surprennent tellement qu'on a tendance évidemment à tout tourner en dérision et bien sûr Charles Trenet ne s'en est pas fait faute. On a bien compris, Anne Bernet, qu'une fois de plus vous aviez absous cette pauvre Frédégonde du meurtre de Prétexta. Que peut-on lui imputer comme crime, néanmoins ?
À coup sûr, l'assassinat de son beau-frère, le roi d'Austrasie. Oui, lui, elle l'a supprimé, il n'y a absolument aucun doute sur la question. Cela dit, c'est une femme intelligente et quand elle décide de supprimer quelqu'un, je ne l'absous pas du meurtre de Prétexta. Je dis qu'elle n'était pas absolument la seule à avoir intérêt à sa disparition. Quand elle décide de se débarrasser de quelqu'un, en général, elle ne rate pas son coup. Or, dans la plupart des attentats qu'on va lui attribuer par la suite, les tueurs font preuve d'une maladresse si extraordinaire, ils se font prendre avec tellement d'acharnement et ils parlent tellement sous la torture qu'on peut se dire tout de même qu'il faudrait qu'elle soit bien sotte pour avoir affaire à de pareils maladroits, puis pour recommencer avec le même mode opératoire, avec une sorte d'obstination imbécile qui n'est pas du tout dans son tempérament.
Alors, il faut que nous en venions aux éléments dont on dispose pour parler avec tant de précision des rapports entre des êtres humains qui ont vécu il y a plus de 15 siècles et à une époque où le moins qu'on puisse dire est que la chronique était très 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 parcellaire.
Nous avons deux sources contemporaines concernant Frédégonde. L'une est l'évêque de Tours, Grégoire, avec malheureusement ce problème que Grégoire est partisan de l'Austrasie.
Donc de Brunehilde,
et qu'il prend systématiquement le parti du camp austrasien contre celui de la Neustrie de Frédégonde, et qu'il faut donc prendre la plupart de ses assertions avec des pincettes. La seconde source, c'est le futur évêque de Poitiers, poète Venance Fortuna, qui n'est pas un historien, c'est un poète et un chroniqueur, presque un journaliste d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte souvent un son de cloche assez différent. Et quand je dis assez intéressant, c'est parce qu'il est l'ami de la reine Radegonde, qui s'est retirée à Poitiers, la veuve du roi Clotaire, donc d'une certaine manière la belle-mère de Frédégonde. Et Radegonde est une sainte, c'est une femme qui n'est pas du tout du genre.
Je suis moi de Poitiers, donc j'ai été élevée dans le culte de Radegonde, vous savez.
Elle n'a peur de rien ni de personne, Radegonde. Par conséquent, elle ne ménage pas sa belle-fille. Si elle pensait que celle-ci est la criminelle que décrit Grégoire de Tours, elle ne lui accorderait pas une certaine estime, elle ne la soutiendrait pas et elle ne laisserait pas Venance Fortuna prendre sa défense en plus d'un texte. Venance est son meilleur ami. Par conséquent, on peut tout de même se poser des questions sur l'authenticité des propos et des crimes que le cher Grégoire prête à Frédégonde.
On est Claude Valleix dans une époque qui pour nous, je le dis depuis le début de cette émission, est très exotique. Tout est différent, tous les repères sont en train évidemment de changer. On sort de plusieurs siècles de Gaule romaine, où finalement la civilisation romaine s'était peu à peu installée sur le vieux substrat celtique. Et puis là arrivent donc ces barbares qui imposent leur propre langue, leur propre droit, si l'on peut parler de droit, et surtout leur mode de vie. Ça fait un peu penser à notre époque aussi, tout ça. C'est des grands mouvements, des grands brassages.
Tout à fait. C'est une époque de transition. Pour comprendre, il faut revenir au siècle précédent. Le 7e siècle est un siècle terrible pour l'Empire romain. Il craque sur ses frontières, il craque à l'intérieur. Il subit de terribles crises, des crises économiques, des crises monétaires, des crises financières. Monétaires d'ailleurs, non. Le solidum, le sou d'or de Constantin qui valait 4000 drachmes en l'an 300, vaut 180 millions à Alexandrie un siècle plus tard. On assiste à des crises agricoles. Donc l'Empire a craqué. Les Romains ont résisté 3 siècles sur le limes, c'est-à-dire cette immense frontière qui va de la mer du Nord à la mer Noire, en courant le long du Rhin et du Danube. Les barbares sont rentrés. Les Francs, qui sont le plus petit peuple des barbares, sont des alliés des Romains depuis longtemps. Ils ont avec eux un feudus, c'est-à-dire un traité. C'est eux qui s'opposent à l'entrée des barbares. Donc, au cours des siècles, il y avait eu des raids, mais au 5e siècle, ils rentrent. Alors, c'est des histoires tout à fait intéressantes, mais en fait, je passe rapidement. Donc, à un moment donné, les Francs se retrouvent dans le nord de la Gaule, face à une légion qui subsiste, mais qui est livrée à elle-même, d'ailleurs, depuis déjà quelques temps, et il la fait exploser. Il rentre dedans. Il a une bonne raison pour ça.
C'est que vous parlez là, en l'occurrence, de
c'est Syagrius. Là,
Clovis,
je parle de Clovis. Oui, je parle de Clovis. Donc Clovis, c'est probablement le plus grand roi. C'est-à-dire qu'il mène des combats d'abord contre les Romains, ensuite contre les Thuringes. Il réunit les Francs et chasse les Visigoths. Il a pour ça un avantage. Il est païen. Tous les barbares sont ariens. Alors aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu bizarre.
Mais malheureusement, on ne va pas pouvoir parler de la lutte contre l'arianisme, alors, là, parce que ça nous entraînerait loin.
À ce moment-là, en Gaule, la Gaule, qui était gallo-romaine, subit une époque de récession économique. La vie se retire des cités. Une économie rurale se reconstitue. Les ateliers s'ouvrent dans les vikis, les villages. Les aristocrates s'établissent dans les très grands domaines dont on a parlé. Et les Francs arrivent dans cette situation. Ils ont pour eux une force militaire incroyable, une envie de vivre, un allant, une énergie que n'ont plus les gallo-romains. Mais le peuple vainqueur a une civilisation moins évoluée. Et la sagesse, si vous voulez, des Francs, c'est qu'ils ont compris que si vous voulez s'installer dans ce pays Ils sont partis sans idée de retour. C'est ça qui est extraordinaire. Ils ont compris que s'ils voulaient s'installer, il fallait qu'ils adoptent la religion. Ils l'ont fait. Mm-hmm. Clovis, c'est un acte politique extraordinaire. Et ils vont utiliser les compétences administratives gallo-romaines, parce que l'administration gallo-romaine avait survécu. L'impôt chez les Romains était très, très élevé. Les municipalités, les curiales de l'époque, qui prélevaient l'impôt et qui étaient tout à fait mal vues, ce sont d'ailleurs, tout le système avait éclaté. Mais ils vont préserver ça. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser, ils ont leur loi, qui est la loi salique, en gros, mais ils vont respecter la loi romaine, c'est le bréviaire de la vie, que chacun est jugé selon sa loi personnelle, et comme quand il y a forcément des conflits entre un gallo-romain et un franc, on fait des synthèses, et c'est comme ça que se construit la France. Mais ils ont besoin de guerre, ils ont besoin de conquête, parce qu'ils ont un système politique qui est rudimentaire, qui est fondé sur la clientèle, sur la confiance, sur le serment, et c'est comme ça que les Mérovingiens, si vous voulez, vont perdre leur puissance quand les rois s'affaiblissent, perdent le pouvoir au profit de l'aristocratie qu'ils ont contribué eux-mêmes à enrichir. Mais les guerres étant épuisées, le trésor public s'épuisant, les aristocrates ont pris le pouvoir, se sont installés sur place, ont obtenu d'être nommés comtes là où ils étaient originaires. C'est la féodalité qui s'installe,
qui se met en place,
donc,
peu à peu,
d'un monde à un autre.
Oui, c'est une. Alors vous dites période de transition, toute période est de transition, mais là c'est une période de très grand basculement dans tous les domaines.
Oui.
C'est une période plus riche, plus fine
oui.
qu'elle n'en a l'air. Bien sûr,
oui.
beaucoup de violence, on l'a vu, Anne Bernet, mais aussi des arts assez raffinés, des modes de vie qui essaient de sauver tout ce qui peut l'être de l'ancienne civilisation romaine, notamment, qui disparaît alors à grande vitesse.
Hein. Mais il faut imaginer Clovis non pas comme un barbare, mais comme l'héritier d'un monde franc qui est déjà romanisé depuis 3-4 générations. On dit barbare, oui, mais pas tant que ça. Il parle latin.
Barbare du point de vue gréco-latin, comme toujours, d'ailleurs.
D'un point de vue gréco-latin, mais ça ne l'empêche pas de parler latin. Ça ne l'empêche pas de s'être assimilé. Bien sûr, il garde un certain nombre de mœurs germaniques. Il tient à son titre de roi. Il n'y a rien de pire pour un Romain que le titre de roi, mais pas pour Clovis. Mais il ne faut pas les prendre non plus pour des brutes. Ils ont un comportement, nous le disions tout à l'heure, un comportement affreux, même d'un point de vue politique. Mais que faisaient les empereurs romains? Vous parliez de Fustel,
justement. Et c'est ça. Après tout, ils ont eu de grands exemples. Et c'est vrai que pour revenir sur la remarque de Frédéric tout à l'heure, la remarque par Internet, on peut dire que tous ces règlements de compte assez sanglants affectent finalement la famille royale. Ça ne signifie pas que plus bas dans l'épaisseur de la société mérovingienne, les gens aient été à ce degré-là de violence. Ça, pour le coup, on n'en sait rien. C'est une lutte pour le pouvoir qui peut-être nous déforme un peu, déforme notre vision des choses. On a l'image de ces gens qui passent leur temps à s'entretuer, mais c'est bien la famille royale qui s'entretue. Peut-être que les gens en dessous vivent plus normalement, c'est difficile à dire.
Le peuple en fait un peu trop souvent les frais. Ces guerres intestines se soldent par des batailles. Oui. La Touraine est systématiquement dévastée, le Poitou aussi.
Anne Bernet, Frédégonde, c'est dans la collection Histoire des reines de France chez Pygmalion. Claude Valex, Frédégonde, la reine barbare, chez L'Harmattan. Et puis on peut citer également de Jean-Louis Fetgen, Les voiles de Frédégonde. Ça, c'est un roman, alors de tout à fait roman historique, chez Belfond.